France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h22, c'est la grande réforme sociétale du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Changer la législation sur la fin de vie. Les discussions débutent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Une commission spéciale va commencer par auditionner ce soir la ministre de la Santé, Catherine Vautrin. Puis elle entendra aussi bien des représentants du monde médical que des professeurs de philosophie ou des responsables des cultes. Bonjour Emmanuel Hirsch.
Bonjour Mathilde Munoz.
Vous serez auditionné demain en tant que professeur d'éthique médicale à l'Université de Paris-Saclay. Vous êtes également membre de l'Académie de médecine. D'abord sur la démarche, le fait de créer une commission spécifique et qu'elle ne se contente pas d'examiner le projet de loi, mais qu'elle consulte des professionnels, est-ce que c'est une bonne façon de faire? Est-ce que c'est utile?
D'abord, c'est rassurant, c'est ce qui a été mis en place pour les révisions de loi de bioéthique, pour prendre un exemple, et ça a été plutôt favorable. Ça permet une dernière forme d'échange. On a une convention citoyenne, rappelez-vous, elle s'est arrêtée il y a un an. Donc on a les conclusions, j'allais dire, de cet audit. On a l'avis du Comité consultatif national d'éthique, rappelez-vous, le 13 septembre 2022, quand le président de la République a lancé cette dynamique d'évolution, de transformation de la loi. Donc je trouve que tout ce qui est de l'ordre du débat est important.
N'oubliez pas non plus... Tout est fait pour que ça se passe sereinement, justement,
oui, puis...
depuis cette convention citoyenne. Là, on se donne encore 2 ans pour aboutir. Surtout, on ne précipite pas les choses et on discute avec tout le monde.
On ne précipite pas les choses. N'oubliez pas qu'on va être à notre 5e loi. Et Olivier Falorni, qui est donc le président de cette commission, avait présenté, rappelez-vous, le 1er avril 2021 à l'Assemblée nationale, une proposition de loi qui était finalement favorable à ces nouveaux droits qu'on cherche à développer. Alors, je ne dis pas que je suis favorable ou pas. Je suis un citoyen qui va suivre cette évolution. Mais disons, la méthode, elle me semble tout à fait à la hauteur des enjeux.
Vous avez cité Olivier Falorni, un député MoDem. C'est pas le président, c'est le rapporteur général. La présidente, c'est Agnès Firmin-Lebaudeau, ancienne ministre déléguée chargée des professions de santé. Justement, sur le choix des personnes qui occupent ces postes clés, parce que dans cette commission, il y a 71 députés de tous bords politiques, mais les deux qu'on vient de citer, ils sont très nettement favorables à ce projet de loi. Est-ce que c'est gênant à ces postes clés?
Vous savez, on est dans une démocratie, on a une représentation parlementaire en représentation nationale, chacun exprimera son point de vue. Mais je pense qu'aujourd'hui, le débat n'est pas sur on arrête l'évolution, c'est dans quelles conditions, avec quel encadrement, cette évolution aura lieu. Rappelez-vous que la première loi, c'était la loi sur les soins palliatifs, le 9 juin 1999. On a Agnès Firmin-Lebaudeau qui a été quasiment l'auteur de la première version de la loi, rappelez-vous, du 6 octobre dernier. Et on a Olivier Falorni. Alors effectivement, j'ai fait une erreur, mais il était aussi rapporteur, effectivement, par le passé. Mais on est dans un contexte où l'important, ça va être véritablement de prendre en compte des situations exceptionnelles et de voir de quelle manière on les transpose dans la loi, sachant que les pays qui nous ont précédés n'ont pas réussi à terme, finalement, à maintenir d'une manière un peu formelle ces critères de minutie qui éviteraient à des personnes qui ne sont pas véritablement en fin de vie de se retrouver confrontées à ces situations d'euthanasie, de suicide assisté.
Alors justement, le choix qui a été fait, c'est pas de copier exactement ce qui se fait dans les pays voisins, c'est voilà une troisième voie en quelque sorte que défend Emmanuel Macron, une nouvelle déclinaison de son en même temps, puisque le projet de loi ne parle pas d'euthanasie ni de suicide assisté, il s'agit d'une aide à mourir. Est-ce que c'est une vraie troisième voie ou est-ce que c'est un suicide assisté qui ne dit pas son nom?
Juste pour parenthèse, le Conseil d'État nous a rendu un avis que j'incite chacun à lire le 4 avril dernier. Il parle d'euthanasie, de suicide assisté, il parle de soins palliatifs. Et ce qui va être l'enjeu fondamental des prochains jours, c'est de préciser les termes. Il ne faut pas qu'on arrive d'une manière voilée. Et les pays qui nous ont précédés, si vous prenez, par exemple, le premier pays, c'était les Pays-Bas, en avril 2001, ont été très clairs. Là, c'était l'interruption volontaire, j'allais dire, de vie. Donc je pense que, par décence vis-à-vis de la société, et par décence vis-à-vis des personnes les plus vulnérables par rapport à ces questions, il faudra être précis. Précis également sur quels sont les critères qu'on va mettre pour définir les règles, quel type de maladie, quel type de proximité par rapport à l'échéance de la mort.
Oui, il y a des conditions très strictes. Le pronostic vital devrait être engagé à court ou moyen terme, c'est ce que dit le texte. C'est quoi le moyen terme?
Mais justement, c'est là où il y a beaucoup d'ambiguïté. Alors quand vous dites ça va être une voie à la française, je vois pas en quoi ça va être une voie à la française. Elle sera même peut-être plus extrême que d'autres, puisqu'il est dans le projet de loi question d'une personne tierce qui n'est pas un professionnel, que la personne malade désignerait pour l'aider dans l'acte d'euthanasie.
Donc, pour accomplir le geste quand le malade ne peut pas le faire
lui-même.
Tout à fait. Hein.
Alors vos précisions, vous devriez être à la mission parlementaire parce que vous leur apporterez de la précision. On est dans le flou, si vous voulez, le plus réel. Parce que c'est difficile de mettre des mots très très précis vis-à-vis de situations aussi compliquées et aussi dures d'un point de vue éthique. N'oubliez pas que finalement la loi aurait été encore plus avancée rapidement si la quasi-totalité des professionnels de santé s'y étaient opposés, notamment les gens des soins palliatifs. Donc il va falloir prendre en compte aussi le côté déontologique. Est-ce que c'est un acte médical que d'apporter à la personne la substance qui va la faire mourir ou même de la faire mourir à travers une substance létale qui est l'euthanasie?
Mais ce que vous nous dites, c'est quoi? C'est qu'en fait, il est impossible de faire une loi justement parce que c'est trop compliqué, trop... on touche à l'humain?
Non, mais il n'est pas impossible. Déjà, l'originalité, si vous voulez, de la France, c'est qu'il y a eu plusieurs démarches. On en est à notre 5e loi. Mmh. Et vous avez le président du comité consultatif national d'éthique qui nous annonce déjà la 6e. La 6e, à mon avis, ça sera la libération la plus absolue.
Donc,
il est tout à fait intéressant. Voilà, il avait dit ça le 10 au moment du Conseil du Nice. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est la prudence et la capacité de discernement. La loi de référence, pour ce qui me concerne, c'est la loi Leonetti du 22 avril 2005, qui était favorable à ce qu'on fasse tout pour que la personne ne souffre pas, y compris si on abrège son existence. Mais il fallait de l'équilibre. Et ce que le Conseil d'État note très très justement, c'est peut-être que le fait de légaliser dans ce domaine empêchera véritablement l'esprit critique, le discernement. Parce que la loi est très normative. Et vous voyez, vous avez des problèmes extrêmement importants qui vont être abordés, j'imagine, dans les prochains jours. Les personnes atteintes de souffrances psychiatriques, les personnes atteintes de maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, qui ne pourront plus exprimer leur volonté au moment où on leur demanderait. Donc vous voyez, vous avez tout un ensemble de situations particulières. On a beaucoup parlé ces dernières heures de Robert Badinter, et c'était très intéressant parce qu'il disait finalement, si demain on devait définir l'exception d'euthanasie, il faudrait aussi qu'on définisse l'irresponsabilité médicale de l'acte létal. Et je pense que ça va être un enjeu fondamental pour qu'on soit, j'allais dire, dans la quiétude avec cette nouvelle loi.
Alors son épouse a dit que si, voilà, il ne faut pas détourner ses propos et que lui aurait sans doute
cela étant, en avril 2004,
validé ce projet de loi.
Elisabeth Badinter, qui est une grande philosophe, de lire exactement ce qu'il avait dit avant la loi Leonetti. Il avait été très précis.
Merci Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale à l'Université de Paris-Saclay. Je renvoie également à votre livre « Soigné par la mort, est-il encore un soin ?» paru aux éditions du Cerf. Quant au débat dans l'hémicycle, ils commenceront dans un peu plus d'un mois, le 27 mai.